Le grand jury RTL Le Figaro LCI, invité ce soir Jean-Luc Mélenchon, député européen et président du parti de gauche. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. À mes côtés, pour animer cette émission, Étienne Moujot, directeur du Figaro, Éric Revel, directeur d'LCI. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Michel.
Et Monsieur Mélenchon.
Voilà, et donc Monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon.
C'est un plateau très à gauche.
L'invité de ce grand jury, ce qu'il veut dire, hein?
Moi, je suis très à gauche.
C'est-à-dire, pourquoi dites-vous cela?
Parce que je suis souvent classé contre mon gré à l'extrême gauche.
Oui.
Donc je profite de l'entrée de jeu pour le signaler. Pourquoi vous aviez pensé autre chose,
monsieur Apathy? Oui, je pensais que c'est à partir de la présentation que j'avais faite de mes deux camarades.
Vous voyez le mauvais esprit? Vous voyez où est le mauvais esprit, monsieur Apathy?
D'accord.
Pas de mon côté.
Alors vous êtes l'une des figures de l'opposition, en tout cas, on peut le dire.
Ça, c'est vrai.
D'accord. Et vous êtes donc bien placé pour nous expliquer un mystère. On peut voir dans différents sondages l'exécutif reculer dans l'opinion publique. Le dernier en date, ce sondage Via Voice, que publiera le journal Libération demain. 40% d'opinion positive pour Nicolas Sarkozy, moins de 3 points. Le Premier ministre, 51% d'opinion positive, moins 3 points lui aussi. Et on ne voit pas, comme si des vases correspondants là ne correspondaient plus, de personnalité à gauche qui s'impose, quelqu'un qui peut incarner quelque chose d'autre, une autre politique. C'est ça le mystère. Vous avez une explication, Jean-Luc Mélenchon?
D'abord, il faut prendre acte des deux phénomènes. Vous avez raison de les pointer de manière dans leur liaison, mais aussi dans la distinction qu'il faut établir. Le chef de l'État est à un niveau remarquablement bas. Je pense que son comportement y est pour beaucoup, parce que on voit que ce n'est pas la même chose pour le Premier ministre. Il y a donc un coefficient personnel.
Politique, son comportement, vous dites?
Oui, parce que je crois qu'il confond l'idée d'être constant dans ses engagements avec l'entêtement. Voilà. Et quelque chose dans la bonhomie spontanée des Français, quelque chose qui est au-delà de la politique, est choqué par cette espèce d'acharnement qu'on sent chez ce personnage. Acharnement lorsque l'État se porte contre les ouvriers de chez Continental, après qu'ils aient tant souffert, on peut encore les faire pâtir à titre individuel. Ou même, pour prendre un exemple, à l'autre bout de la chaîne, cet acharnement à propos de M. Villepin, ou bien ce que l'on va voir encore à propos de ces malheureux sans-papiers qu'on pourchasse, eux, leurs enfants, enfin bref. Quelque chose est choqué dans cette manière brutale de traiter les petits. Et puis le sentiment que tout ça n'est pas juste, parce que le pays est riche, et pourquoi sommes-nous si nombreux à être pauvres, se disent les gens qui osent s'avouer qu'ils sont pauvres. Ça, c'est une chose. Après, il y a notre côté à nous, hein, la gauche. Et clairement, ce que vous dites est juste. Personne ne se détache. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'être anti-Sarkozy, d'être contre le chef de l'État, de gesticuler en faisant de lui la caricature de je ne sais quel gnome fascistoïde. Tout ça n'a pas de sens. Les Français sentent que le moment est grave et que ce dont on a besoin, c'est d'une perspective de l'avant, de quelque chose qui rassemble, qui unisse, qui fasse, qui remette notre patrie à sa place. À sa place sociale, à sa place de liberté, à sa place, les choses qui comptent aux yeux des Français, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et la gauche, pour l'instant, n'est pas capable de faire ça. Et pour quelle raison? Parce qu'elle est complètement avachie dans l'eau tiède social-démocrate qui consiste à dire, quand la droite dit « on va faire la retraite à 65 ans », ils disent « non, seulement 62 ». Bon, là je prends un exemple gentil, hein. Je pourrais prendre un exemple cruel. En Espagne, où ils proposent de la mettre à 67. En Allemagne, où ils l'ont mis à 65. Tout ça est absolument lamentable. Ça prouve que, pourquoi sont-ils comme ça? Ce sont des gens intelligents, des gens honnêtes, et des gens de bon cœur de gauche. Ils sont absolument incapables de penser à un autre ordre de la société.
Là, vous parlez des dirigeants socialistes.
Pardon?
Vous parlez des dirigeants socialistes.
Oui, alors après, nous, on ne vaut pas. Il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. Si c'est ça que vous voulez qu'on aborde, je suis prêt à le faire. Mais là, on parle des grands courants qui structurent la vie politique.
On va en finir avec les sondages. Il y en a un autre que publie le Figaro demain, Opinionway, qui ne dit pas tout à fait ça. Il voit ce sondage, un PS qui monte, des Verts qui baissent. Et donc, un parti socialiste, contrairement à ce que vous dites, qui a l'air de bien se tenir et même de profiter de la situation. N'auriez-vous pas fait une erreur en partant?
Si vous voulez dire une erreur d'opportunité, c'était pas mon sujet, hein. Mon propos n'était pas de garantir.
Par rapport à la gauche.
Non, justement, par rapport à la gauche, je pense que j'ai bien fait et je n'ai pas eu un jour de regret depuis. Pourquoi ? Que le Parti socialiste bénéficie de l'opposition qui s'exprime contre Nicolas Sarkozy, c'est assez mécanique et assez naturel. Et puis peut-être que nous, on doit aussi faire notre critique. Si nous étions capables, nous, dans l'autre gauche, de nous rassembler mieux que nous ne le faisons, on serait plus entraînant. Ça va de soi, et c'est bien ce que je ne cesse de dire. Il faut que certaines des composantes de cette autre gauche, je pense en particulier au NPA, comprennent que Tant, aussi longtemps qu'on donnera l'impression d'être totalement éparpillé, ben, il est normal que beaucoup de gens se disent ben, « on ne va pas trop leur faire confiance, ils n'arrivent déjà même pas à s'entendre entre eux ». Alors petit à petit, l'idée du front de gauche fait son chemin, mais je reconnais que nous en sommes seulement au début. Pour autant, je reprends ce que vous venez de dire. Alors, donc, le Parti Socialiste a de bons sondages. Bien. Il part à la bataille, certains de la gagner. Eh bien, c'est parfait. Mais réfléchissons-y, ce scénario, on l'a déjà joué. On l'a joué en 2004. Sur la base de la culpabilité de l'élimination de Lionel Jospin, en 2004, plus personne n'a touché terre. Et le Parti Socialiste, dont j'étais membre, et dont j'étais un des dirigeants, nous avons surfé sur la vague, nous avons gagné 21 régions, et après quoi ? Qu'en avons-nous fait ? 20 régions. Qu'en avons-nous fait ? Est-ce que ça nous a servi de point de départ pour gagner la présidentielle ? Non, c'est tout le contraire. Est-ce que nous avons fait des régions que nous dominons le bouclier, le rempart à ces politiques de la droite que les gens étaient en droit d'attendre ? Bah, pas tout à fait, je ne veux pas être excessivement cruel, mais on peut dire que ça n'a pas été à la hauteur des circonstances. Il est vrai que la crise est venue là-dessus, rendant la politique plus compliquée pour tout le monde, aussi pour les socialistes. Mais néanmoins, quand même, quand on est le premier parti d'opposition, qu'on vote dans les deux assemblées contre le transfert, par exemple, des ATOS, les personnels techniques d'éducation nationale, et qu'on voit ensuite tous les présidents se précipiter pour les prendre dans leurs effectifs et s'en réjouir, franchement, il y a là quelque chose qui est un peu... qui fait réfléchir, qui montre l'insuffisance de la ligne de défense qu'a représentée cette victoire de 2004. Donc en 2000, là, tant mieux, je souhaite qu'on gagne. Je vous dis les choses tranquillement. Au deuxième tour, il faut que la gauche explose, M. Sarkozy. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de montrer qu'on ne voudra pas de sa réforme des retraites, dont on va peut-être parler.
Ça n'a servi à rien en 2004, alors, mais il faut recommencer en 2009.
Pour reprendre la longue litanie des sondages qui précèdent toujours une élection électorale...
Il faut bien donner quelque chose pour parler.
Non, mais alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question telle que Jean-Michel l'a posée. Il y a quand même un homme de gauche qui semble sortir
dans le franc journalistique.
Dans les sondages, c'est Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous considérez que c'est un homme de gauche qui pourrait porter des réformes économiques qui seraient estampillées du sceau de la gauche ?
Tout simplement, est-ce que c'est un homme de gauche ?
Bah oui, est-ce que c'est un homme de gauche ? Il sort des
sondages. Attendez, moi je ne veux pas faire injure à ses convictions. Si vous demandez à Strauss-Kahn s'il est de gauche, il est de gauche. Hein. Bon, maintenant, ce que moi je pense de sa vision de la gauche, alors c'est une autre paire de manches. Hein.
C'est ça la question.
Clairement, je ne souhaite pas pour mon pays, je vais dire les choses simplement, je ne souhaite pas pour mon pays les remèdes qu'il applique actuellement comme directeur du FMI aux pays qui sont dans le besoin. Voilà. Je ne souhaite pas qu'on applique en France la politique qu'il demande au Portugal d'appliquer, qui est de supprimer des milliers de postes de fonctionnaires. Je ne souhaite pas pour la France la politique qu'il impose aux Hongrois, qui consiste à baisser les salaires et réduire les dépenses de santé. Et ainsi de suite.
Eh bien,
voilà. Je ne le souhaite pas. Je vous le dis franchement. Donc si c'est lui le candidat, il va avoir du fil à retordre avec nous, parce qu'il ne croit pas qu'on a la mémoire courte. Hein. Ces choses-là, on en parlera.
Est-ce que vous ne souhaitez pas que Dominique Strauss-Kahn soit le prochain président de la République ?
Ah, c'est pas mon problème, ami Apathy. Il fera bien ce qu'il veut. Et le pays fera bien comme il veut. Il votera comme il voudra et nous respecterons sa décision. Je vois pourquoi je serais plus indigné à l'idée que Strauss-Kahn soit président de la République que je le suis de Strauss-Kahn.
Mais ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un bon candidat de gauche. Ce n'est pas un bon candidat de gauche que le
clairement
parti
non.
Gauche.
Donc
ça ne serait pas un bon président.
Clairement non. Mais attendez, il y a une règle à gauche. Mais c'est le peuple qui tranche. Si le peuple et une majorité de gauche tout d'un coup se prend de délectation pour M. Dominique Strauss-Kahn, au deuxième tour, on votera pour le candidat de gauche arrivé en tête. Si c'est lui, c'est lui. Si c'est Mme Buffet, c'est Mme Buffet. Si c'est M. Besancenot, c'est M. Besancenot. Vous voyez ?
Si c'est M. Mélenchon, c'est M. Mélenchon.
C'est vous qui le dites. Eh bien, il faudra bien que les autres s'y fassent. Bon. Donc, ce n'est pas le sujet entre nous, gens de gauche. La question qui nous est posée, et aux électeurs, aux citoyens en général, c'est quelle politique est bonne pour leur pays. Et ça ne se passera pas, M. Apathy et vous, messieurs, comme d'habitude. Ça ne sera pas une élection relax, celle de 2012. Ça va être une élection dans le bruit et la fureur d'un monde qui est en train de s'écrouler. Est-ce que nous sommes conscients de ça à travers tous les sondages que nous lisons ? Un monde est en train de mourir. Le monde du libéralisme triomphant, du capitalisme de tous les instants, du productivisme qui se contrefiche des effets écologiques de ce qu'il impose à la production. C'est ce monde-là qui est en train de mourir. Et déjà, il est mort dans la tête des gens qui trouvent qu'il n'est pas légitime, que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Tout le monde le sent. Vous savez, comme nous, ce qui nous est arrivé pour notre malheur dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, les gens se sont dit « bon, le socialisme, tous ces trucs collectifs, ah, vous... on s'est trompé ». Hein, finalement, ce qui est bien, c'est un peu chacun pour soi, la liberté dans tout domaine, la concurrence de tous contre tout le monde. De tout ça, les gens sont en train de dessouler. Ils ont la gueule de bois. Parce qu'ils réalisent l'ampleur du désastre qui s'est réalisé.
Ils veulent revenir au collectivisme, comme Jean-Luc Mélenchon. Hein.
Eh bien, vous verrez que nous saurons les en convaincre. Parce que
au collectivisme.
Si, du retour au collectivisme.
Mais évidemment, vous vous doutez bien qu'un homme comme moi vous propose le retour au Gosplan. Ça vous a échappé.
Je sais pas, c'est vous qui l'avez formulé comme ça. Hein.
Mais oui, mais parce que je n'ai pas peur des mots.
Ah, très bien.
Et je demande que, dans la vague d'égoïsme qui déferle, auquel on pousse les gens à s'opposer les uns contre le chef de l'État étant champion du monde pour cet exercice-là, opposer les uns aux autres continuellement, les fonctionnaires aux travailleurs du privé, ceux qui sont sur le métro et qui sont en grève contre ceux qui sont sur le quai, ça c'est le champion. Moi je dis, dans le moment que nous vivons, les bonnes solutions sont des solutions collectives, celles où tout le monde se serre les coudes, et non pas où c'est chacun pour soi, chacun pour
sa
gueule.
Par exemple, il faut renationaliser massivement.
Pourquoi massivement? Si vous y tenez, on nationalisera massivement.
Mais
non, mais pourquoi massivement?
Renationaliser.
Voilà, c'est déjà mieux. C'est plus raisonnable.
D'accord.
Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait en effet renationaliser?
Allons-y.
L'électricité, les sources d'énergie. Regardez, tous les pays du monde ont compris que c'était de la folie de privatiser à tout va la ressource énergie. Pourquoi? Parce que c'est une ressource rare. Parce qu'elle ne peut pas être abandonnée purement et simplement à la loi du marché. Eh bien nous, bravement, nous sommes en train de démanteler notre grand outil qu'est EDF. D'une manière indigne.
EDF, l'État à 83% du capital.
Nous ne faisons qu'appliquer les règles européennes qui demandent la concurrence dans ce domaine comme dans d'autres.
C'est M. Moujotte qui l'a dit.
Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est la règle européenne.
Eh bien donc, la règle n'est pas bonne.
C'est deux choses.
Voilà. C'est ça la citoyenneté.
Ce sont deux choses différentes. Hein. C'est-à-dire que EDF...
Quoi, vous n'êtes pas d'accord là non plus, si vous voulez bien, c'est moi l'invité.
EDF est une entreprise publique.
Non, ce que je voulais dire, c'est que EDF...
J'espère que les auditeurs remarquent mon habileté, j'ai déjà réussi à vous éparpiller en trois.
Vous êtes très fort. Vous êtes très fort.
Merci.
EDF n'est pas privatisé au sens où l'on entend. C'est-à-dire que l'État est largement majoritaire dans son capital, 83%, je crois.
Bien.
Alors que Étienne faisait référence à autre chose, c'est pour ça que je me permettais de
faire la mise en concurrence.
La mise en concurrence,
oui,
ce qui n'est pas la même chose.
Nous allons prendre les deux.
Vous, ce que vous disiez, c'est la mise en concurrence.
Non, mais les deux termes sont importants. Vous dites EDF n'est pas privatisé, puisque l'État y reste très majoritaire. Oui. Moyennant un certain nombre d'amodiations qui en détruisent la signification de service public. Parce que l'obligation de respecter les règles de concurrence libre et non faussée fait que EDF est mis en demeure de céder des parts de ses propres contrats à des entreprises privées. Donc nous sommes dans une autre logique que celle du service public. Aussi bien, dès qu'il y a une part...
L'actuel PDG d'EDF a l'air de rechigner.
Pardon ?
Ce à quoi l'actuel PDG d'EDF a l'air de rechigner.
Oui, eh bien écoutez...
Vous soutenez donc
non, certainement pas. Ah. Certainement pas, c'est un hypocrite. Non. Ah. C'est un hypocrite et qui est à la tête de cette entreprise pour la liquider, et vous verrez qu'elle sera liquidée. D'abord, il vient d'une... Oui, mais je parle bien de Veolia, des rapports avec EDF. Oui, bien sûr. La ligne générale de tous ces gens, c'est la privatisation... d'EDF. Et ils y travaillent méthodiquement, en faisant les mines, en portant les masques qui sont nécessaires, voilà. Et moi, je vous dis qu'un gouvernement du front de gauche constituerait un monopole du service public de l'énergie. Un monopole.
Et là, vous agitez
parce que la libre concurrence.
Qu'est-ce qui vous permet de dire, là, concrètement, que Henri Proglio, à la tête d'EDF, est en train de privatiser ou de rendre au privé EDF? Vous agitez un chiffon électoral, on l'aura compris, mais concrètement.
Non. Pourquoi un chiffon électoral? D'abord, écoutez, cessez de mépriser les arguments électoraux, électoralistes.
Ah non, je ne méprise pas.
Écoutez-moi, moi j'assume. Les élections sont pour moi le chemin de la révolution, par les urnes. C'est comme ça que je veux transformer mon pays. Je respecte la loi de la majorité et je fais tout pour convaincre, pour autant que je puisse avoir la parole comme je l'ai à cet instant. Par conséquent, tout argument qui contribue au débat citoyen, pour moi, est respectable s'il est juste, s'il est mensonger. Il faut le pointer du doigt. Donc, moi, je suis fier d'être électoraliste parce que je veux convaincre une majorité de mes concitoyens.
Mais sur EDF, voilà. Concrets.
Oui, d'accord, on va faire le procès individuel. J'espère qu'on n'y perd pas trop de temps. Mais je dis qu'un homme qui vient d'une entreprise privée, qui est en concurrence avec EDF, à qui il a fallu arracher le fait qu'il veuille bien ne toucher qu'un seul salaire, et ne pas encaisser, néanmoins il l'encaissera, une retraite qui est une honte du point de vue des logiques normales de l'État républicain dans lequel nous vivons, eh bien, permettez-moi d'être plus que suspicieux à son égard. Voilà.
Mais tout à l'heure, on va reparler. Il a fait de Veolia une très grande entreprise. Pourquoi choisirait-il de démanteler, d'abîmer...
Pour la raison qu'il ne croit pas au service public, M. Moujotte. On peut être un grand chef d'entreprise d'une entreprise privée et avoir la mentalité, les états d'esprit d'une entreprise privée, ça n'a rien à voir avec le monopole du service public. C'est deux états d'esprit, M. Moujotte. Et je lui fais, quand je lui dis que ça ne sera pas un bon patron d'une entreprise publique, c'est parce qu'on a été chercher dans le privé pour qu'il transforme une entreprise publique en entreprise privée. Voilà ce que je dis. Je l'affirme et je suis prêt, le moment venu, on le redémontrera à mesure que les événements avanceront. Et je suis partisan du monopole de l'énergie. Je suis pour un service public. Alors, quelle forme de service public de l'énergie, c'est une autre affaire, parce que je ne suis pas partisan du nucléaire, comme vous le savez. Je suis partisan pour d'autres modes de ressources énergétiques. Je pense que le pays, ses ingénieurs, ses techniciens, ses ouvriers, sont en état de déployer un nouveau système sur l'ensemble du territoire. Si vous me posez la question, je vous dirai lequel et comment. Mais voilà ce à quoi je crois. D'accord. Et dans ces conditions, c'est absolument incompatible avec l'idée de privatiser le service public de l'énergie.
Vous êtes pour la diminution progressive du nucléaire. Vous n'admettez pas que le nucléaire, c'est ce qui fait pour une part l'indépendance énergétique de la France.
Alors écoutez, Étienne Moujotte, longtemps j'ai dit comme vous. Vous voyez ?
Oui, c'est ce que je ne voulais pas noter, parce que je voulais qu'on change de sujet, mais je pense que vous avez été un défenseur du nucléaire, effectivement.
Un défenseur, non, mais je le supportais sans y réfléchir davantage. Et puis, devenu parlementaire, j'interpelle une fois EDF à propos de la centrale de Nogent. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, nous ferions peur à tout le monde, de ceux qui nous écoutent. Et ma question était, ça n'avait rien à voir avec l'énergie elle-même, c'était des questions de vulnérabilité pour des questions de défense. Mm-hmm. J'ai donc voulu savoir quelles étaient les conséquences d'avoir un réacteur nucléaire qui est le seul au monde en amont de la capitale. Il n'y a que nous qui faisons ça au monde. Bon, voilà, alors je ne vous dis pas mes conclusions, mais j'observe que les réponses qu'on me fait à ce moment-là sont de purs stéréotypes. Je vais voir de plus près, et voilà comment a commencé ma réflexion. Ce n'est pas vrai que nous sommes plus indépendants grâce au nucléaire, car je vous rappelle que pour que ça fonctionne...
Ça nous évite d'importer du pétrole ou du gaz.
Attendez, il n'empêche que la matière première qu'est l'uranium, il faut bien le trouver, il faut bien le sortir, et nous ne sommes pas indépendants car il n'y en a pas en France. Et pour aller le chercher là où il se trouve, nous sommes obligés de procéder avec des moyens politiques qui ne sont pas toujours, à notre honneur. Voilà, pour résumer. Deuxièmement, les déchets que laisse l'industrie nucléaire, M. Moujotte, vous êtes un être de raison comme moi, donc je pense qu'il faut que je vous convainque avec des arguments de raison, et c'est celui-là qui m'a le plus ébranlé. Que doit-on penser d'une énergie qui produit des déchets dont personne ne sait que faire ni comment les éteindre ? Alors au minimum, un homme de raison se dit, eh bien, nous en sommes passés par là. Notez, M. Moujotte, que vous êtes très fier d'une décision qui relève entièrement et absolument d'une décision d'État. Jamais la moindre entreprise privée n'a eu l'idée de développer quelque investissement que ce soit en matière d'énergie dans ce pays. C'est vrai pour le nucléaire, c'est vrai pour la fusée Ariane, c'est vrai pour le TGV. Je ferme la page de l'État. Bah oui, mais M. Moujotte ne peut pas dire une chose et son contraire. En attendant,
M. Moujotte, vous écoutez.
Le quoi ? Eh bien, c'est bien, c'est un bon début parce qu'il va écouter la suite et je vais le convaincre. Les êtres de raison se disent.
Ce que le service public a fait, c'est-à-dire les centrales nucléaires.
Mais il arrive qu'on se trompe, c'est pourquoi la loi est humaine, elle n'est pas divine.
L'erreur est importante, oui. C'est une manière de critiquer le service public qui est assez étonnante, finalement.
Ceux qui ont fait le nucléaire sont ces ingénieurs de
bonne volonté.
De service public qui servaient cette entreprise et la nation.
Tout à fait, c'est pourquoi moi je leur demanderai, écoutez-moi, quand nous serons un gouvernement de front de gauche, nous demanderons à ces gens, ingénieurs, techniciens, ouvriers, de l'ensemble de la filière, et ils sont disponibles pour cette bataille, nous leur dirons la chose suivante, nous allons sortir du nucléaire. Parce que le nucléaire, à long terme, est dangereux. Nous ne pouvons pas couper, fermer le bouton, c'est pas possible. Il faut en sortir progressivement. Comment allons-nous faire ? Nous avons une réserve immense à notre disposition, dont nous avons déjà les prototypes, qui sont dans l'Est de la France et en Guadeloupe, qui sont les centrales thermodynamiques. Les centrales thermiques. La chaleur de la Terre est à la disposition de tout le monde et elle est infinie. Lorsqu'on a fait les premiers essais, il y a plus de 20 ou 25 ou 30 ans, c'était les Soviétiques qui avaient fait ça, ça avait coûté un fric monstrueux. Depuis, nous savons produire les aciers, nous savons produire les installations qui permettent des forages à grande profondeur. Je ne donne toutes ces indications que pour montrer que ce que je dis procède de la raison, de l'argumentation et non pas de l'agitation, des peurs. Bon, je crois à la technique, je crois au progrès et je crois à la participation, écoutez bien ce mot qui peut-être va vous choquer, de la classe ouvrière, des intellectuels, aux objectifs que la nation leur donne. Si nous disons amis, jeunes gens, et cadres et ingénieurs, Nous vous donnons 10 ans pour nous sortir de là. Vous verrez qu'ils vont s'arracher la peau et ils le feront. Parce que les techniques existent. De la même manière que si je vous dis, moi au gouvernement, je décide que dans un mandat de 5 ans, il n'y aura plus un camion sur la route entre la frontière belge et la frontière espagnole. Eh bien, je vous dis qu'il y a des milliers de cheminots, des milliers qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour trouver les moyens, les techniques, les ingénieurs, ils sont prêts aussi. Ce qu'il faut, c'est proposer à notre pays l'excellence du 21e siècle et pas être là à mégoter des petits comptes pour savoir si ceci a coûté trop cher ou pas assez cher. Il faut donner à la France une perspective, un horizon de grandeur, mais pas au sens militaire du terme, au sens de l'esprit, au sens de la contribution à l'histoire de l'humanité. Voilà ce qu'il faut faire.
D'accord. Donc ça, on aura l'occasion sans doute, vous aurez l'occasion sans doute de développer ces arguments pendant que nous parlions de ça.
Peut-être mais... que je vous ai un peu convaincu, non ? Dites-moi.
Nous ne l'avions
Comment ébranlé.
Nous ne l'avions pas prévu comme ça, mais les urgences s'accumulent. Là, l'explosion d'une conduite de gaz dans une centrale électrique du Connecticut aux USA, dimanche, a fait des victimes en masse. Rapporte la police, donc sans doute nous en parlerons beaucoup, et au moins au niveau de la sécurité, des questions seront posées sur la gestion de ces centrales.
Il faut faire très attention avec ces choses. Vous savez, je ne connais pas le cas précis, mais je m'inquiète beaucoup de l'éparpillement de certaines missions de sécurité, notamment dans les centrales nucléaires, confiées à des tas d'entreprises qui certes sont agréées, mais dont on découvre en cours de route qu'elles, soit elles tombent en faillite, soit le personnel n'est plus là, les agréments de sécurité qui sont mal donnés. Je m'inquiète beaucoup de tout ça, et je redoute, je souhaite que jamais mon pays ne connaisse ça. Vous savez, c'est une énergie dont on dit qu'elle est sûre, bien sûr, mais lorsqu'elle ne l'est plus, catastrophe, c'est à une échelle telle que la France n'aurait pas les moyens, M. Moujot, de supporter un seul accident.
Il n'y a pas qui soit plus contrôlé que celle-là.
Je l'espère, et il faut continuer à le faire, mais pour ça, il ne faut pas la privatiser.
Change de sujet, les retraites. Pensez-vous qu'une réforme du régime des retraites soit indispensable, ou pensez-vous au contraire que la présentation des chiffres, des déficits, ne correspondent pas à la réalité ?
Attendez, c'est deux choses différentes. Faut-il faire une réforme ? Bien sûr qu'il faut en faire une. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, tout le monde n'est pas mis à contribution. Pourquoi les revenus de la finance ne sont pas soumis à contribution pour les retraites ? Pourquoi, quand vous avez des stocks options, vous ne payez pas pour la retraite ? Pourquoi, quand vous avez un revenu de placement en investissement, vous n'avez pas de contribution à la retraite ? Ce n'est pas normal. Si on installait une cotisation, toute la partie, disons, ouvrière, hein, la partie salariée, si on l'installait sur une base du type CSG, ça nous donnerait des milliards de gains par rapport à la collecte actuelle, 6 milliards de plus, et ça ferait quelque chose comme 2 ou 3 milliards de moins en cotisations sociales pour les ouvriers, donc pour les ouvriers, les salariés, pardon, et donc un gain pour eux de pouvoir d'achat.
C'est
donc
bien sûr, de l'égalité ou de l'équité qu'il faudrait.
Ah oui, moi, de l'égalité. L'équité, vous savez, ça dépend qui c'est qui décide dans l'équité. Tandis que l'égalité, ça, tout le monde le sait. 1 égale 1, ça va, on y voit clair. Donc oui, il faut réformer pour élargir l'assiette. Il faut réformer pour éviter que la dette ne continue à se creuser, mais sans faire les affoleurs, sans dire des choses qui ne sont pas. Par exemple, pousser des cris à propos de la dette du régime des retraites, bon, oui, c'est important. On dit qu'en 2010, ça serait 10 milliards. Mais moi, je propose qu'on ne prenne pas les chiffres de 2010 ni de 2009, parce que la contraction de l'activité fait que, évidemment, les cotisations sont moins nombreuses. Prenons des années de rythme de croisière, si j'ose dire. Par exemple, 2008. Bon, si vous prenez l'étude du corps, le corps dit qu'en 2008, c'est 5 milliards. Ben, 5 milliards, c'est pas le bout du monde. Je viens déjà de vous dire qu'en changeant l'assiette, ça vous donne 6 milliards. Supposez que l'État reverse réellement les cotisations sociales dont il a exempté une partie des employeurs. Il ne reverse pas tout. Il manque 3 milliards tous les ans. Il n'en rembourse que 30 milliards. On viendra après sur le déficit, qui est la passion personnelle de M. Apathy sur ce plateau. Mais pour l'instant, nous parlons de la sécurité sociale et du régime de retraite. Là, il y a encore 3 milliards. Vous voyez, on est déjà à 8 milliards. Maintenant, juste comme ça, hein, mais je ne peux pas faire moins que de le mentionner. Au cours des 20 dernières années, 8 points de PIB sont passés des poches du travail au capital. Supposez que cette somme revienne dans les poches du travail. C'est-à-dire qu'on change le curseur. Bon, la droite a beaucoup gagné, maintenant, c'est nous, donc le curseur change de sens. Eh bien, si ces 8 points de PIB revenaient dans les poches du travail, et si on prenait dessus des cotisations retraite, vous voyez, eh bien, ça ferait 10 milliards.
Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de si dans votre
développement.
Oui, oui, non, mais simplement parce que quand vous taxez le capital, ce qui est peut-être une piste intéressante de taxer le capital, vous comprenez bien que ça induit des comportements qui ne donnent plus le même type de recettes, donc vous ne pouvez plus prélever la même chose. C'est-à-dire votre calcul, il est globalement théorique, mais en pratique, c'est vrai que ça se passe mal. Mais c'est pas ma question.
Si, attendez, ça mérite réponse.
C'est pas ma question.
Parce que je vais juste dire, oui, mais comme disent les journalistes, des étages. Une fois que vous faites trop peur au capital, il sauve, il n'y a plus personne à tondre. C'est ça que vous voulez dire?
En gros, oui. En gros, il y aura d'autres arbitrages.
Vous savez comment ça se passe.
Je ne vois pas. Je vous comprends, mais c'est une bonne. Oui. Attendez, mais je ne vais pas dire que ce que vous dites n'a pas de sens. Oui. On sait ce que c'est que le mur de l'argent, nous, la gauche. Hein. On s'est déjà payé à plusieurs reprises. Mais donc, c'est une politique globale. Là, j'ai abordé le point du déficit des retraites, hein, mais j'ai encore d'autres choses à dire sur ce déficit, mais par rapport à la logique que vous exprimez, ça veut donc dire qu'il faut mettre en place une toute autre logique en France, de la production, de l'investissement. Donc, moi, je suis pour rendre plus difficile la sortie du capital. D'accord ? Quand il y a des actions, je suis pour défluidifier, déliquidiser la circulation des actions. Il ne faut qu'on puisse pas se sauver comme ça.
Vous fermez la bourse.
Non, pas fermer la bourse. Mais monsieur Apathy, vous êtes un terroriste bolchevisant, là.
Non, j'essaie de comprendre la logique de votre pensée. Si vous voulez défluidiser le capital, vous fermez la bourse.
Non. Ben, monsieur Apathy, vous voyez, vous allez vous faire claquer, ça ne va pas vous plaire. Je sens que ça ne va pas vous plaire. On l'a déjà fait dans deux pays, ça. La Malaisie et le Chili. C'est-à-dire que chaque fois que de l'argent arrivait de l'extérieur et s'investissait, ces deux pays qui n'étaient pas dirigés par des gens de gauche, permettez-moi de vous le dire, exigeaient des dépôts de garantie qui n'étaient restitués que si l'argent restait au minimum un an. Ça vous dit quelque chose ? Donc vous voyez, c'est pas du communisme ça. C'était l'époque où il y avait des gens de droite qui dirigeaient. Donc déjà, empêcher que l'on s'amuse à cette histoire de fou qui est la cotation en continu. Du matin au soir, les valeurs sont échangées. C'est-à-dire qu'elles sont complètement désincarnées de la production réelle. Celui qui achète une telle action ne se soucie pas de savoir si on produit des castagnettes, si on produit des chapeaux, si on produit des voitures, il s'en fiche. Tout ce qui lui compte pour lui, c'est le bout de papier qu'il a dans la main, et combien il vaut à telle heure, et combien il vaut à telle autre heure. Déjà, il faut ralentir tout ça. Deuxièmement, il faut que la production... Comment se fait-il qu'un pays dont on dit tant de mal, la France, hein, où les ouvriers se gobergent, ils ne fichent rien, puisqu'ils ne travaillent que 35 heures. J'ai lu dans un journal américain, je ne voulais pas le croire, il était écrit dedans qu'en France, les patrons payent le restaurant aux ouvriers. L'imbécile qui avait écrit cet article croyait que le chèque restaurant, c'était un cadeau que faisait le patron, qui payait le restaurant aux ouvriers, et ainsi de suite. Comment se fait-il que ce pays soit le deuxième endroit pour les investissements directs du monde ? C'est quand même étonnant. Et moi, je me suis posé la question. D'abord, je me dis, les ouvriers français, ils bossent, hein. D'accord, 30% de productivité de gagné depuis 1983. Donc ils ont bossé, ils ont mouillé la chemise. 2% tous les ans. Mais j'ai surtout vu qu'on venait nous dépouiller, mes chers amis. Figurez-vous que vous avez entendu parler de ces LBO, c'est on achète des boîtes en empruntant de l'argent. C'est-à-dire ce sont des groupes qui n'ont pas un sou vaillant devant eux, qui achètent une entreprise en bonne santé, par exemple Continental ou par exemple une autre comme ça. Et puis ils les dépouillent, ils les découpent en morceaux, ils vendent les actifs, ils pompent la trésorerie et ils se sauvent. Donc nous sommes une proie juteuse. Eh bien moi, au pouvoir, je ne laisserai pas faire. Moi, je ne suis pas M. Sarkozy, je ne laisserai pas.
Vous fermerez les frontières. Vous fermerez les frontières.
Ce qui est bien, c'est le sens de la nuance qui vous caractérise.
J'essaie de comprendre la logique de votre système.
Eh bien, je vais répondre à M. Mougeot.
Non, pas tout à fait. Parce que voyez-vous, le chef ici, c'est quand même moi. Vous êtes l'invité, mais c'est moi le chef. Donc, Étienne a fait une réflexion qui va susciter une réponse de votre part après que nous ayons pris connaissance des informations. Et puis, on essaiera aussi de parler d'autres sujets. Il y a le voile, il y a les élections régionales. Oui. Beaucoup de choses
mais à rester. Mais on terminera sur l'industrie parce que ça m'occupe beaucoup.
Et c'est moi le chef de l'émission. On terminera comme je l'entendrai. À tout de suite.
Vous voyez la dictature.
Eh oui.
C'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité Jean-Luc Mélenchon, député européen et président du parti de gauche. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour la poursuite du grand jury avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez bien, Étienne Mougeot, reformuler la critique que vous aviez faite
une question.
Avant l'interruption.
Vous nous avez décrit, M. Mélenchon, ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, empêcher la fluidité des capitaux, mettre en cause les LBO, finalement, au bout du bout, ma question est simple. Comment faire cela sans fermer les frontières et sortir de l'Union européenne ?
Non, là, c'est tout à fait excessif.
Comment
Bah, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, s'est fermée en France une usine qui produisait de l'acide acétique. Bon, alors on pourrait dire on s'en fiche, l'acide acétique, non, on s'en fiche pas, c'est une production de base de l'industrie chimique. Il y avait une seule et unique entreprise dans toute l'Europe. Je pourrais prendre d'autres exemples dans l'industrie, mais celui-là est celui de la Célanèse. Bon, trouvez-vous normal que l'on ait abandonné cette production ? Quels que soient les règlements, on verra après, mais quel que soit le règlement, est-ce que c'est normal de se dire, dorénavant, tout l'acide acétique qui arrivera en Europe va arriver par bateau et ensuite par camion des États-Unis et de Chine? Ceci est absurde, écologiquement et
économiquement. Vous ne répondez pas précisément à ce que dit
Étienne. Nous avons des lois pour ça. Il y a des situations dans lesquelles l'État, parce qu'il y a encore un État qui existe, hein, il n'est pas forcément seulement au service de la libre concurrence, à certains moments, il doit être l'État garant de l'intérêt général, doit pouvoir dire « ceci n'est pas permis ». Voilà. Et donc, nous réquisitionnons, parce qu'il y a des lois qui permettent la réquisition.
Formulons les choses autrement. Les contraintes européennes sont-elles trop grandes? Vaudrait-il mieux sortir de l'Europe, mener une politique nationale?
Prenons les choses dans l'ordre. Il faut avoir une politique industrielle, voilà ce que j'affirme. Pour avoir une politique industrielle, nous, les Français, nous devons, conformément à nos traditions...
Écoutez-moi. Quand l'État dit à Renault « vous devez produire les Clio en France », c'est très exactement l'expression d'une politique industrielle. Vous devriez applaudir dès demain.
Oui, bien sûr, il vaut mieux qu'elle soit produite là, et moi j'aimerais mieux qu'on se tourne vers d'autres productions. Je vais vous prendre un autre exemple, monsieur Moujotte, pour qu'on se comprenne bien. Airbus, tout de même, c'est le fleuron de l'industrie européenne. Vous ne perdez pas de vue que nous, les Français, y jouons un rôle tout à fait particulier, puisque c'est nous qui avons tout fait. Bon, et que, sur, eh ben oui, 60% de la valeur de l'entreprise est franco-allemand, et là-dedans, 80% français. Donc, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Eh bien, cette entreprise magnifique a commencé à être mise en difficulté, pas par ses ingénieurs, pas par ses techniciens, ni par ses salariés, mais le jour où, pour complaire à une certaine vision du capitalisme, on a mis au poste de commande les financiers et les commerciaux, qui ont commencé à vendre des contrats intenables et des financiers à mettre des délais intenables eux aussi. Voilà.
Et Boeing a les mêmes problèmes.
Non, les mêmes. Et alors ? Et alors, comme bien même aurait-il les mêmes problèmes, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut libérer la production du cancer du capitalisme financier. Voilà. Alors vous pouvez me dire, mais monsieur Mélenchon, il y a toutes sortes de choses qui s'y opposent. Ben oui, il y a toutes sortes de choses qui s'y opposent. Mais alors pourquoi parle-t-on? Il suffirait de dire, laissons, comme le chien crevé au fil de l'eau, la politique aller comme elle est. Non. Et en Europe, nous sommes capables de tenir un discours, mais encore faut-il le tenir. Qui s'oppose à la politique de dérégulation générale des marchés en Europe? Personne. Par conséquent, quand j'y serai, il y aura moi.
Ce que vous dites, Étienne, est un exemple. Par exemple, Renault, la pression sur Renault est une tentative de s'opposer au règlement européen, ce que d'ailleurs la Commission européenne reproche au gouvernement français.
La Commission européenne est peuplée de fanatiques dont la contribution au développement de l'économie européenne restera dans les annales comme ce qui aura été de plus pitoyable de l'histoire.
L'exemple d'Airbus est intéressant.
Pas une douleur trop grande
et c'est la limite du raisonnement.
Si ce n'est pas une douleur trop grande pour vous, vous pouvez convenir que de votre point de vue, ce que fait le gouvernement français vis-à-vis de Renault est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise chose.
Mais, monsieur Apathy, bien sûr, je serpente parce que je ne veux pas vous répondre. Pour une raison très simple. Je déteste les débats où l'on passe son temps à me demander si, en effet, je suis d'accord avec monsieur Machin. En effet, par exemple, si vous me parlez d'Afghanistan, j'ai toujours été pour le retrait des troupes d'Afghanistan.
Je vous demande si vous êtes d'accord avec Christian Estrosi qui dit les voitures vendues en France doivent être fabriquées en France. C'est un ministre que vous soutenez quand il dit ça ou c'est un ministre que vous ne soutenez pas?
Ça se discute. Voilà, ça se discute. Je demande à regarder. Les voitures vendues en France doivent être produites en France.
Non, mais sûr.
Ça se discute.
Sur
on peut produire toutes sortes de choses et on peut avoir une autre perspective que de produire des voitures.
Monsieur Mélenchon.
Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a subventionné comme on l'a subventionné, il faudrait quand même mieux que les Français envoient un peu
l'argent. Il faut revenir quand même sur votre exemple d'Airbus. Parce que, à mon avis, attendez, Apathy exagère.
On prend un exemple sur une production. Et alors tout d'un coup, vous voudriez repeindre ce gouvernement en volontariste et planificateur. Me faites pas rire. Mais d'abord, ils font que des paroles, ils ne font jamais rien d'autre.
Monsieur Mélenchon, l'exemple d'Airbus, à mon avis, c'est la limite du monde idéal que vous pensez. Parce que Airbus a un concurrent qui s'appelle Boeing, on le soulignait. Oui. Vous ne pouvez pas extraire Airbus, qui est né sur des fondamentaux étatiques, vous avez raison de le souligner, d'un monde de concurrence. Airbus est une entreprise qui vend à des compagnies privées et qui doit donc avoir respecté des critères privés. Oui. Donc, l'impulsion donnée par l'État, certes, vous avez raison de le souligner, il y a d'autres exemples, mais pour le reste, le monde idéal que vous mettez en place, que vous souhaitez, s'arrête là, parce que Airbus doit se heurter à une concurrence qui est mondiale.
Mais bien sûr, mais monsieur, ce que vous dites est très juste. Oui, mais écoutez-moi bien. La preuve que j'ai raison, c'est que quand Airbus est devenu majoritaire sur le marché des avions, il était dans le statut antérieur. C'était pas les financiers, c'était pas les commerciaux, c'était pas le monsieur nommé par, comment vous l'appelez, celui-là qui est parti avec une retraite énorme, là, j'ai oublié son nom, et qui n'a servi à rien à part couler la boîte.
Je connais son nom, mais si je dis, monsieur Forgeard.
Voilà, Forgeard. Bon. Hein, ce grand esprit dont on nous avait dit, ah, si on les paye pas assez, ils s'en vont, on n'a qu'une chose à leur dire, c'est au revoir. Ils coûtent trop cher, tous ces gens-là. Mais c'était avant, et c'est là qu'Airbus faisait le trou. Et voyez-vous, quand on achète un avion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on souhaite, premièrement, qu'il vole, et deuxièmement, qu'il soit livré à la date dite. Or, les dates dites ne tiennent pas debout. Par conséquent, on a dû payer d'énormes pénalités. Ça, c'est un échec des commerciaux. Quand vous vendez un avion de bonne qualité, dans le délai donné, vous le vendez. À supposer qu'on veuille en effet développer le transport aérien, ce qui est une autre question, comme vous le savez, du point de vue de l'équilibre écologique de la planète. Mais n'oublions jamais ça. Ce que vous dites, moi, ce dont j'essaye de vous convaincre, à travers nos micros, là, et les gens qui nous écoutent, on peut faire autrement. Ne dites pas le monde idéal de M. Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire autrement. Les gens aiment faire du beau travail. Les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers aiment sortir des bons produits. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, plutôt que de venir quotidiennement les persécuter en leur faisant peur, en les faisant marcher au stress, en les insécurisant, les précarisant, pour les faire travailler encore, encore et encore, sans jamais aucun horizon de satisfaction individuelle et collective. Voilà. La France, elle est contente quand elle fait des beaux objets qui se vendent dans le monde, qu'on admire pour ça et qu'on est bien payé pour le faire, qu'on a la retraite à temps. Monsieur Apathy, juste un mot, parce que sinon, je ne serais pas content de mon passage ici. Je veux dire solennellement, contre les affoleurs, on peut maintenir la retraite à 60 ans, on peut faire partir les gens au bout de 40 annuités, même s'ils n'ont pas 60 ans, et on doit obtenir qu'on ait un revenu de remplacement du dernier salaire qui soit au moins de 75%. Voilà ce qu'on peut faire dans ce pays, et moi, je sais le faire. Et si les autres ne savent pas le faire et qu'ils veulent faire autrement, on le propose aux Français. Il y a la solution de l'un et il y a la solution de l'autre. Voilà à quoi sert le vote, et vous allez peut-être me dire que c'est électoraliste.
Non, 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 faites pas les réponses à la question, voilà. Et au nom de l'égalité...
Si, c'est permis, vous aussi, hein.
Au nom de l'égalité.
Faites des questions qui sont des réponses, moi je fais des réponses, sont des questions.
Au nom de l'égalité, il faut rapprocher les modes de calcul des pensions dans les secteurs publics et privés. Parce que tout à l'heure, vous avez dit au nom de l'égalité.
Pardon. Hein. Excusez-moi.
Un égal.
Non, excusez-moi, je retire.
Un égal.
D'abord, égalité de quoi, s'il vous plaît? Ce n'est pas la même ressource. Quand on parle du privé, on parle d'une ressource qui vient de la production.
Les uns calculés sur 6 mois, les autres calculés sur 25 ans. Mais voilà. Vous savez très bien de quoi je parle.
Oui, oui, mais c'est le nivellement par le bas. Je connais cette histoire-là.
On par le haut, peut-être alors.
Ben non, mais
pourquoi,
moi, je suis.
Pourquoi ne pas le faire par le haut?
Je suis pour le nivellement par le haut. Mmh. Et puisque vous m'en fournissez l'occasion, je suis pour le retour au calcul des retraites sur les 10 meilleures années et pas sur les 25. Surtout maintenant, dans la situation dans laquelle on va. Attendez, monsieur Apathy, c'est moi qui vous pose la question dans l'autre sens. Mmh. C'est quoi le coup du contraire? C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire des gens qui partent avec une retraite de base. Aujourd'hui, plus de 42% d'entre eux, la retraite de base, hein, je ne parle pas des régimes complémentaires, je parle de la retraite de base qui est inférieure au seuil de pauvreté. Ça veut dire que c'est des gens qui vont tomber malades, que vous allez retrouver à l'assurance maladie. Ça veut dire des gens qui vivent mal, ça veut dire une société pourrie par la misère. Voilà le prix. C'est pourquoi moi je suis pour qu'on paye les gens honnêtement et correctement. Et monsieur Proglio devrait cotiser à la retraite autant qu'un smicard. Lui, il paye sur 2% de son salaire, le smicard sur 100%. C'est pas juste. Voilà l'égalité qu'il faut rétablir. Vous êtes d'accord, monsieur Apathy, je vois.
Juste de suggérer que le critère d'égalité que vous évoquiez tout à l'heure, quand il est appliqué...
Mais commençons par... Mais non, c'est pas juste de dire ça.
Il ne doit pas
les ouvriers du privé, j'en connais pas un qui dit ça ira mieux pour moi le jour où les fonctionnaires seront aussi maltraités que moi. J'en connais pas un qui dit ça. Par contre, moi, Mélenchon, je dis que je veux que le portier paye dans les mêmes proportions que le patron. Et que M. Proglio, qui paye 2% de son salaire comme cotisation retraite, doit payer sur 100% comme les ouvriers de base. Voilà la vraie égalité. Tout le monde paye à proportion de ses moyens, de sa richesse. C'est pas juste que les uns payent beaucoup et les autres rien. Surtout quand ils peuvent, hein, parce qu'ils ont des sous.
Vous vouliez le dire, vous l'avez dit.
Je suis pour l'égalité, en effet.
On va changer de sujet avec Étienne Moujotte.
Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de M. Besancenot, présente en PACA une liste aux élections régionales sur laquelle figure une jeune femme voilée, avec un voile. Comment pouvez-vous vous allier avec un parti qui a ce type de pratique? Et êtes-vous d'accord avec ce que disait aujourd'hui Madame Filippetti, députée socialiste? C'est une dérive idéologique totale. Vous, le Républicain, comment pouvez-vous accepter ça?
Madame Filippetti est bien gentille, mais en matière de dérive idéologique, au niveau de la social-démocratie, ça va, on est servi. Hein,
parce que, le voile.
Oui, d'accord. Si être socialiste pour proposer la retraite à 67 ans, il ferait mieux de fermer. Hein. C'est le cas en Espagne, c'est le cas dans tant de pays. Bon, bref. Donc,
elle n'est pas espagnole.
Laissons les socialistes. Oui, ben justement, il ferait bien de s'en rappeler. Que le socialisme français a des caractéristiques égalitaires qui n'avaient pas les autres. Alors venons sur le fond. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Je pense que les gens qui sont candidats doivent manifester leur attachement à l'intérêt général en se soustrayant à l'affichage de convictions religieuses particulières. J'espère que ma phrase n'est pas trop compliquée. Je ne supporte pas plus quelqu'un qui a un voile sur la tête comme candidat que quelqu'un qui viendrait avec une kippa ou qui viendrait avec une grosse croix et qui, en quelque sorte, me demanderait, en votant pour lui, d'approuver son engagement religieux. Je veux m'en tenir à la personne. Je suis sûr qu'elle est une personne de qualité, cette jeune femme. Par conséquent, je lui demande de se comporter comme on doit se comporter en République laïque. C'est-à-dire, alors je ne dis rien du féminisme à cet instant, mais donc de manifester qu'elle sera au service de l'intérêt général sous la seule commande de son programme politique et non pas de la vérité révélée à laquelle elle peut par ailleurs souscrire si elle veut dans le secret de son cœur, mais sans nous obliger à l'approuver ou à le désapprouver. La religion n'a rien à faire dans la politique. Écoutez, ce discours-là, je l'ai tenu contre eux.
Comment expliquez-vous qu'Olivier Besancenot, son parti, fasse ce choix ? Avez-vous une explication ?
Je ne sais pas. C'est à lui qu'il faut le demander. Je sais bien que dans de nombreux pays, des groupes trotskistes essayent de construire des liens en passant par-dessus la question religieuse, parce qu'ils ont l'illusion qu'on peut passer par-dessus la question religieuse dans la vie publique. Non, dans la vie publique, il faut se battre pour qu'il n'y ait pas de religion. Ce que je dis là ne s'applique pas à M. Besancenot, à cette jeune femme,
qui est
vraiment très combattante.
Mais c'est lui qui nous fournit l'exemple.
Monsieur Attaki, permettez-moi
juste de prolonger ma question, oui, parce qu'en fait, j'avais une arrière-pensée dans ma question. On a constaté dans la préparation de ces élections régionales que vous auriez souhaité vous alliez avec Olivier Besancenot, lui, son parti, ne l'ont pas souhaité, ça vous a visiblement beaucoup déçu. Est-ce que cet épisode supplémentaire, celui du voile, montre à votre avis que décidément entre vous et eux, il y a une distance dans l'approche de l'action politique ?
Mais nous ne sommes pas identiques, c'est évident, sinon mais pourquoi on serait deux partis différents ? Non,
est-ce
mais
qu'il
pas
y a quelque
que
chose
ça.
Qui vous empêche ?
Il ne faut pas non plus donner des proportions insurmontables aux difficultés. Tout à l'heure, nous évoquions le nucléaire. Parmi les communistes, un grand nombre d'entre eux ne sont pas du tout d'accord avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos de la sortie du nucléaire. Ça ne m'empêche pas de m'allier. Il faut une alliance et pas une identification des uns aux autres. Au deuxième tour de l'élection régionale, aussi bien le NPA que nous, le Front de Gauche, nous serons en alliance avec les socialistes.
Pour gérer les régions avec eux.
Pas le NPA, non. Voilà
pour... Monsieur Apathy, vous êtes mal renseigné. Car dans les discussions que nous avons eues avec le NPA, depuis le début, nous sommes tous d'accord pour dire qu'au deuxième tour, il y aura ce que appeler des fusions démocratiques ou des fusions techniques, ça dépendait des jours, l'adjectif qui était utilisé. Donc, nous sommes toujours sur la ligne. Au deuxième tour, on fait bloc face à la droite. Pour autant, nous ne sommes pas d'accord avec les socialistes, ni le NPA, ni
vous
nous.
Vous allez gérer les régions avec eux si vous gagnez.
Non, attendez.
Si vous gagnez.
Non, mais c'est
une région que vous gagnez, où vous êtes allié avec les socialistes, vous allez gérer avec eux. Ou alors, vous allez être dans l'opposition une fois l'élection
faite. Il y a une partie du Parti Socialiste qui pense qu'il faut allonger le nombre d'années travaillées au-delà de 60 ans. Gérard Collomb l'a réaffirmé. Ben oui.
Vous voyez ?
Ben oui.
Bon, donc il y a des désaccords et ça n'empêche pas de s'allier.
Mais alors on a du mal à penser sur quel type de
si
base
vous
pouvez vous allier avec un parti.
Attendez.
Comme
d'abord, je voudrais établir de la manière la plus claire qui soit une distinction qui me semble indispensable. Premièrement, c'est une chose de dire qu'au deuxième tour, on se désistera les uns pour les autres. C'est une question principielle à gauche, face à la droite. Voilà. Peu importe les divergences, il y en a eu dans le passé. Il y en avait entre les communistes et les socialistes pendant des années, ils se tapaient dessus, hein, et on dépassait ça. Au deuxième tour, on se rassemble, comme dans le passé. C'est une vieille histoire en France.
Ça s'appelle n'a pas la discipline républicaine. Ces alliances-là, le PC y a laissé beaucoup de plumes.
Peut-être bien, mais c'est une question de principe. Depuis la transition à la République, c'est comme ça, voilà, Monsieur Moujotte, et ça changera pas, et moi j'y tiens, parce que sinon ça veut dire qu'on rend les clés des 22 régions à la droite, voilà, et il n'y aura plus jamais de victoire.
Alors,
de la
une autre question.
C'est pourquoi, attendez, nous avons une compétition entre nous à gauche pour savoir qui doit être devant, et ça c'est le peuple qui tranche. C'est pourquoi, Monsieur Moujotte, je vous dis qu'on peut être en alliance au deuxième tour pour battre la droite et ne pas gérer ensemble les régions. Pour notre part, nous avons posé une série de conditions, hein, à cette alliance pour participer à des exécutifs. Il y aura donc des endroits où on sera dans les exécutifs et d'autres endroits où on n'y sera pas. Ça dépendra de ce que les socialistes veulent faire. Là où les socialistes veulent du MoDem, eh ben ils feront ça sans nous. là où les socialistes ont l'intention de continuer à financer et arroser les écoles privées au-delà des obligations légales, eh ben ils feront ça sans nous. Là où ils refusent d'entrer dans le capital des entreprises à travers des coopératives sociales financées en partie par les régions, eh ben ils feront ça sans nous. On n'ira pas avec eux. Ils seront obligés de discuter des contenus de notre programme, et à ce prix-là, peut-être que nous serons dans les exécutifs. Mais nous n'aurons pas manqué à la discipline républicaine. C'est très important que chacun comprenne bien ça. Celui qui vote pour nous, vote au deuxième tour pour l'unité de la gauche. Voilà. C'est une question cardinale.
Même
de la même
si
manière...
Vous avez des accords qui vous empêchent de figurer dans un exécutif.
Mais voilà. Eh bien, compliqué. Vous avez tout compris, monsieur Apathy.
C'est assez compliqué à comprendre.
Mais non, c'est pas du tout compliqué à comprendre. Ça veut dire on bat la droite et on est à gauche. Et si les gens veulent que ce soit moi qui dirige, eh bien, c'est moi qui dirige et ils votent plus pour nous que pour les autres. Et je m'incline devant leur décision. S'ils préfèrent qu'il y ait plus de socialistes que de Front de Gauche, eh ben ils préfèrent qu'il n'y ait plus de socialistes que de Front de Gauche. Et demain, en 2012, aux élections présidentielles et aux élections législatives, nous, le Front de Gauche, nous agirons de même. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, nous désisterons parce que nous voulons qu'on se désiste pour nous quand nous sommes devant.
Alors,
qu'il nous reste produire dans le Languedoc-Roussillon.
Cette question de principe, c'est-à-dire faire battre la droite, s'applique-t-elle, selon vous, en Languedoc-Roussillon, dans l'hypothèse d'un deuxième tour entre Georges Frêche et le candidat de l'UMP?
Ah ben, là, je vais vous répondre très clairement. Ni au premier, ni au deuxième tour, il n'y aura d'alliance avec Georges Frêche. Voilà, c'est clair ?
C'est pas ma question.
Oui, mais si, c'est moi, c'est ma réponse.
Mais c'est pas ma question, donc je vais reformuler ma question.
Allez-y.
Pouvez-vous, au nom de ce principe que la gauche est toujours unie, appeler à voter Georges Frêche pour battre le candidat de l'UMP ?
Non, nous ne le ferons pas. Ni au premier, ni au deuxième tour.
Pas d'accord avec Georges Frêche, ça on avait compris. Pas de consigne de vote en faveur de Georges Frêche au deuxième tour dans l'hypothèse où il est face à...
Non, parce que nous y serons. Alors, c'est l'occasion peut-être de dire que... Oui, mais non, ça c'est des histoires...
Nous savons très bien... Vous disiez tout à l'heure que les six étaient de la politique.
Mais, et monsieur Frêche...
C'est une question politique que je vous pose.
Ben, j'ai bien compris. Mais je vous dis, il y a des choses qui sont de l'ordre du possible et de celles qui sont de l'ordre de l'impossible.
Mais le fait que vous soyez au deuxième tour n'est pas de l'ordre du certain.
Il y a peut-être
une possibilité.
C'est une possibilité, nous sommes dans la possibilité.
Et alors si on est dans la possibilité, donc on retient de votre
réponse...
Monsieur
Apathy, moi je fais de la politique à partir des réalités, pas à partir des si, des peut-être, des scénarios de toutes sortes.
Mais si, c'était de la politique.
Mais écoutez-moi, j'ai regardé les sondages qui sont parus depuis maintenant plusieurs mois. Dans tous ces sondages, la liste du Front de Gauche est au-delà de 10. D'accord ? Donc elle est en état de se maintenir. Nous avons un accord avec les écologistes, depuis la première heure, accord que j'ai défendu une fois sur un plateau et qui avait provoqué beaucoup d'histoires. J'avais dit qu'il faut avoir un accord préalable avec les écologistes. Nous avons un accord préalable avec les écologistes en Languedoc-Roussillon, qui eux aussi sont crédités de plus de 10% des voix. Par conséquent, quoi qu'il arrive au deuxième tour, il y aura une liste Front de Gauche écologiste. Soit les écologistes la conduiront, soit ce sera René Revol, la tête de liste du Front de Gauche, qui la conduira, et nous irons au deuxième tour dans cet ordre-là. Voilà.
Et
maintenant, si Mme Mandrou se joue à nous, tant mieux.
Et le Parti Socialiste, vous le passez par perte de profit.
Non, mais il y a une liste Mandrou.
Mais qu'est-ce qui justifie cette exception en principe ?
Pardon.
Qu'est-ce qui justifie cette exception en principe ?
Le comportement, les manières, le discrédit que Georges Frêche a apporté sur la gauche. La gauche, ce n'est pas ça, voilà. Et il y a un jour, on arrête.
– C'est quoi Frêche alors ? Si la gauche, ce n'est pas ça, c'est quoi Frêche ?
– Écoutez, monsieur Apathy, ne jouons pas au plus fin.
– Non.
– Les procédés de Georges Frêche nous ont discrédités. Le Parti Socialiste a mis un temps fou à les sanctionner. Je le sais d'autant plus que j'étais membre du Parti Socialiste, que ce sont mes proches qui ont lancé la première pétition pour demander son exclusion, et que c'est un de mes proches qui présidait la commission des conflits qui l'a exclu du parti. D'accord ? Par conséquent, ça fait des années que ça dure. La truanderie dans les votes internes, les brutalités de toutes sortes, les manières qui nous ridiculisent de parler aux gens.
Truanderie,
nous en avons assez.
Truanderie dans les votes internes.
Oui, bien sûr, je l'affirme. Bien sûr, continuellement, à tous les votes. Et tout le monde le sait au Parti Socialiste. Tout le monde, monsieur Apathy, le sait. Bon, donc revenons à cette affaire. Pardon, monsieur, mais tout à l'heure, Étienne Moujotte faisait le point des sondages. Je ne sais plus si c'était sur le plateau ou avant qu'on arrive ici. Nous sommes, les trois blocs sont à égalité. Je vous signale qu'au deuxième tour, dans le Languedoc-Roussillon, il y a une liste socialiste. Madame Aubry elle-même a dit qu'il n'y en avait pas deux, il y en avait une. C'est celle de Madame Mandrou. Par conséquent, au deuxième tour, vous aurez les écologistes, le Front de Gauche et la liste de Madame Mandrou ensemble. Puisque Mme Mandrou, elle aussi, a dit qu'au deuxième tour, elle ne ferait pas alliance avec M. Frêche. Donc où est le problème ? Il est dans la confusion qu'éventuellement on entretiendrait sur le sujet. Aujourd'hui, ces trois blocs sont à égalité. La droite est un petit peu derrière nous, M. Frêche est un petit peu au-dessus de nous, et nous sommes juste derrière. Donc il reste 5 semaines de campagne. À l'issue de ces 5 semaines de campagne, soit René Revol sera en tête pour le Front de Gauche de l'ensemble de ces trois listes écologistes, Mandrou et nous, soit ce sera Madame Mandrou, soit ce sera l'écologiste, et dans chacun des cas, on se regroupera derrière lui au deuxième tour. Voilà.
D'accord.
Donc c'est très simple, la gauche va gagner en Languedoc-Roussillon si on la désempêtre du fréchisme.
Éric Revel.
J'aimerais vous poser une question qui est à la fois, enfin qui est à mi-chemin entre le débat de société et la question religieuse. Éric Besson a proposé un décret soutenu par François Fillon en refusant d'accorder la nationalité française, vous l'avez vu, à un homme qui obligeait sa femme française à porter la burqa. Martine Aubry a apporté son soutien à cette décision et à cette forme de décret. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bien sûr, moi je suis d'accord. Vous savez, sur la question de la religion, je suis un héritier des Lumières. Je ne m'en cache pas et je l'ai toujours manifesté en toutes circonstances. Hein. Quand c'était pour l'Algérie, je me suis fâché avec un homme pour qui j'ai un respect immense, qui est aussi Naït Ahmed, le président du FFS, et je me suis rapproché de quelqu'un que j'aime beaucoup, le docteur Saïd Saadi, du RCD, parce que je n'acceptais pas les accords de Rome avec les intégristes. Jamais, même au nom de la lutte contre le pouvoir de l'époque. Je me suis exprimé de la même manière à propos du Tibet, je suis contre la théocratie. Quelles que soient les circonstances, je pense que la religion n'a rien à faire dans la vie politique, et ça s'applique à la question que vous me posez.
Pour rester là-dessus, puis peut-être après en changeant de sujet pour finir, les gens expliquent, enfin des commentateurs, des responsables politiques, par exemple encore Luc Chatel, que si Olivier Besancenot a pris sur ses listes une candidate voilée, c'est parce que son parti est aux abois.
Bon non, je crois pas. Je crois pas que ce soit vrai. D'abord, c'est pas eux qui ont déclenché l'affaire, hein. C'est le journal Le Figaro qui a pointé...
Le Figaro n'a pas déclenché l'affaire, Le Figaro a porté une information.
Oui, c'est ça, voilà. Elle a porté une information.
Ah, elle a un voile, hein.
Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est pas le NPA qui a surgi sur la scène en gesticulant et en disant « Vous avez vu, on a volé quelqu'un, c'est pas vrai. Hein » Bon, ils ont réagi mal, à mon avis, ils s'est empêtré dans cette histoire, non, parce qu'ils ont manqué de fermeté.
Quelqu'un qui avait un voile, c'est ça.
Oui, vous avez raison, ça ne produirait pas au parti de gauche. Non, mais entendons-nous comme ça, j'en profite. Ça ne se produirait pas au parti de gauche, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de discussion, nous sommes un parti laïque, personne n'est autorisé à être candidat avec un signe religieux, et personne n'est autorisé à parler de sa religion en public.
Olivier Besancenot aux abois ?
Vous ne me ferez jamais dire si je crois ou pas et à quoi.
Olivier Besancenot aux abois ? Non, c'est pas ça qui explique.
Non, il mène sa lutte, il est dans sa vision à lui de la lutte politique, il est assez indifférent aux résultats électoraux, faut être franc, hein, il compte plutôt sur l'action sociale, les mouvements révolutionnaires de venus du peuple et d'en bas, bon, franchement, c'est pas les élections sans
juste
problème.
Juste sur l'identité nationale. Hein, il y a un séminaire.
Oui, je m'aperçois que j'ai pas complètement répondu à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure.
Vous êtes arrêté
un peu
brutalement,
j'approuve le fait. Pour moi, écoutez-moi bien, la République n'est pas un régime neutre. D'accord ? Ceux qui ont gagné, ce sont les miens. Ceux qui ont défendu la liberté de conscience totale en toutes circonstances. Et par conséquent, ceux qui ne veulent pas de ça ne sont pas. L'identité française se confond avec l'identité républicaine. Celui qui ne veut pas de la République, il va avoir du mal à être français. Alors celui qui y est déjà, il a le droit. Hein. On peut être royaliste, on peut être tout ce qu'on veut en France, la parole est libre. Mais ceux qui veulent rejoindre la nationalité française doivent le faire aux conditions qui sont le respect de la loi en France. Il est interdit de faire une loi de fait sur son épouse.
Justement, il y a un séminaire demain, sur l'identité nationale. Parmi les mesures qui pourraient être avancées, il y a celle-là, création d'un serment civique, droit et devoir du nouveau naturalisé.
Non, tout ça c'est des histoires. Qui est français, celui qui a une carte d'identité française. Si vous voulez savoir comment on fait, vous n'avez qu'à lire le code d'administration et c'est tout, ça suffit. Ça suffit avec cette histoire. C'est pas un gouvernement de déclencher des débats philosophiques. C'est aux penseurs, à la société et pas au gouvernement. C'est une histoire de fou.
Et dernière question d'actualité
célèbre. De toute façon, quoi qu'ils écrivent, je serai contre, d'accord ? S'il faut jurer quelque chose, je veux pas. Parce que la liberté dans ce pays, c'est aussi la liberté d'être français comme on veut. En respectant la loi.
Une cinquantaine de migrants avaient investi un hangar près de Calais. Et les forces de l'ordre les ont délogés. Vous soutenez l'action des forces de l'ordre ou vous êtes plutôt du côté de ceux qui ont investi les...
Il est lamentable de persécuter les pauvres gens. Et cette raison-là est plus forte que toutes les autres raisons. Voilà. Mon cœur se serre en pensant, oui, il faut respecter la loi, bien sûr, je suis pour respecter la loi, mais je suis un être humain et il y a des moments où la loi est pas bonne, elle est injuste, elle est brutale, elle est cruelle, elle ne sert à rien. C'est nous qui affamons le reste du monde et qui ensuite nous plaignons de voir les malheureux que nous avons jetés sur les routes venir chez nous.
Et donc il faut cesser de contrôler
notre énergie à les jeter dehors.
Il faut
vraiment,
cesser
bravo.
De contrôler l'immigration aux frontières.
Pardon ?
Il faut cesser de contrôler l'immigration en frontière ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut contrôler, mais qu'il y a plus intelligent à faire que ça. Voilà. Et je suis un peu insupporte qu'on me pose sans arrêt cette question. Par exemple, vous pourriez me dire, monsieur Mélenchon, est-ce qu'on ne pourrait pas changer la politique agricole qui fait qu'on inonde ces pays de produits agricoles qui arrivent de chez nous subventionnés, que les pauvres gens qui cultivent sur place ne peuvent pas en vivre ? Alors qu'est-ce qu'ils font ? Les plus braves, les plus courageux, ils s'arrachent à leur famille, à leur terroir, ils se mettent sur la route au péril de la vie. Pourquoi ? Pas pour vous voler votre votre pain, ni le mien, ni celui de personne, mais pour le donner aux leurs. Ça, c'est une chose humaine. Et moi, je suis du côté de ce qui est humain. Voilà. Et je sais que des fois, c'est en contradiction avec la loi. Eh bien, je préfère être du côté de ce qui est humain. Voilà.
Ce grand jury est terminé.
Merci.
Voilà, c'est vous qui en avez fait la conclusion. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.